Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 1er juillet prochain, on célébrera le centenaire d'une des grandes actrices d'Hollywood. Franck Ferrand a choisi de lui rendre hommage dès aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Olivia de Havilland reste dans les esprits une des héroïnes d'Autant l'emporte le vent, le chef-d'œuvre de Victor Fleming, d'après Margaret Mitchell, tourné en couleur en 1939 et dont je vais vous raconter le tournage. Elle incarnait à l'écran Melanie Hamilton, devenue Melanie Weeks. Elle a joué dans bien d'autres films. Sa sœur Joan Fontaine nous a quittés il y a 2 ans et demi, mais Olivia, elle, est toujours bon pied, bon œil, et pourtant on peut dire qu'elle appartient à l'histoire. Je suis heureux qu'Henri-Jean Servat soit venu nous parler d'elle cet après-midi. Et puis, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Louise sur les origines du tabouret de grâce. Mais oui.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Autant en emporte le vent, ce titre fait surgir dans nos mémoires un flot de souvenirs baignés de couleurs crues en technicolor. Des générations entières ont aimé voir se débattre son héroïne sudiste, aussi fascinante que détestable, confrontée à la guerre de sécession, autrement dit à l'écroulement de son monde, un monde bâti sur l'orgueil de classe et l'exploitation des esclaves. Les caprices retentissants de Scarlett O'Hara, ses amours agités avec Red Butler, et puis surtout sa capacité à survivre au pire coup du sort, en ont fait un des personnages les plus célèbres de l'histoire du cinéma, personnage issu du best-seller de Margaret Mitchell, Gone with the Wind, sorti en 1939 sur les écrans américains. Ce long métrage, on pourrait dire ce très long métrage, reste une œuvre clé de l'âge d'or d'Hollywood et on peut dire qu'en termes d'aventure, les coulisses de ce film monumental n'ont pas grand-chose à envier à l'épopée qu'il retrace. Tout commence au printemps 36, quand David O. Selznick, un des producteurs indépendants d'Hollywood, qui est toujours à l'affût de nouveaux sujets de films, quand Selznick donc reçoit le résumé d'un roman qui n'est pas encore paru, il est à paraître. Le résumé lui est envoyé par son agent littéraire sur la côte Est, une jeune femme qui lui explique au téléphone. Elle parle d'Autant n'emporte le vent, elle dit « Je suis vraiment excitée par ce livre, chaque minute compte, il va y avoir beaucoup de concurrence, une compagnie a déjà offert 25 000 $, j'aimerais que vous lisiez rapidement ce synopsis pour me donner vos réactions. Je pense que c'est une histoire absolument magnifique et qu'elle nous appartient, dit-elle. » Alors Selznick n'a que 34 ans à cette époque, mais on peut dire que c'est déjà un homme d'expérience. Il a eu d'importantes responsabilités dans de grands studios avant de créer sa propre compagnie. Il a généralement un certain flair, mais après avoir lu le résumé d'Autant en emporte le vent, il se dit que ça n'est pas pour lui, il préfère décliner. Il faut vous dire que la somme nécessaire pour se réserver les droits du livre, une somme de 50 000 $ de l'époque, est vraiment très importante, surtout pour un roman qui n'est même pas encore en librairie. La porte n'est pas pour autant tout à fait refermée. C'est vrai, les aventures de Scarlett O'Hara feraient un très bon film. L'intrigue est captivante, les personnages sont forts, l'atmosphère sudiste est tout simplement envoûtante. Alors qu'il apprend qu'un autre veut s'emparer des droits, Selznick change d'avis. Autant en emporte le vent sera à lui, à personne d'autre. Il n'en a pas encore conscience, mais très vite et pendant plusieurs années, sa vie ne tournera plus qu'autour de cette obsession. D'ailleurs, une sorte de fièvre s'empare de Hollywood. Le roman est en passe de devenir un phénomène littéraire. Toutes les actrices ont bien compris qu'il y a là un rôle formidable, peut-être le rôle de toute une carrière. Judy Cameron et Paul Christman le racontent. À son retour de vacances, Selznick découvrit son bureau submergé de photos, télégrammes, lettres et messages en provenance d'actrices et d'agents. Dès l'annonce de son achat des droits du roman, virtuellement chaque actrice hollywoodienne de plus de 14 ans se mit à rêver du rôle de Scarlett O'Hara. Mais pour l'instant, La priorité, ce n'est pas la distribution des rôles. D'abord, il faut parvenir à transcrire cette espèce de roman fleuve de Margaret Mitchell. Il faut en faire un scénario qui puisse fonctionner à l'écran. Ça veut dire un travail d'adaptation considérable. Il faut supprimer des personnages et des péripéties. Conserver en même temps le côté épique du livre en étant fidèle à chaque fois que possible. Selznick engage un scénariste réputé. Il entend bien veiller lui-même à tous les détails de cette première mouture. Et il en sera ainsi dans tous les domaines de l'immense chantier qui est en train de se mettre en place. Les costumes, les décors, les aspects techniques, Selznick veut être là, il veut tout voir, tout régenter lui-même, autant n'importe le vent sera son bébé. Ça doit être un spectacle extraordinaire. Dites-vous bien qu'on est à une époque où le noir et blanc règne en maître, bien entendu, hein, avant la guerre. Le film doit être tourné entièrement en Technicolor. Je dis entièrement parce qu'on est à une époque où il arrive que certaines scènes de films soient simplement en couleur. Bien là, du début à la fin, on sera dans les couleurs, on va exploiter toutes les possibilités de cette nouvelle technologie. Et rapidement, alors que le projet est en train de prendre forme, Selznick se rend compte du décalage entre ses ambitions et ses moyens financiers. Il lui faut par ailleurs une star de premier plan pour assurer ses arrières. Alors le producteur va trouver une solution à ces deux problèmes à travers une offre de son propre beau-père. Son beau-père, c'est Louis Mayer, le patron de Metro-Goldwyn-Mayer, hein, le studio tout-puissant à l'époque. En résumé, en échange de droits de distribution, qui sont importants, la MGM investit une somme importante dans le film et accepte de prêter sa grande vedette de l'époque, Clark Gable, qui est, ça tombe bien, le Red Butler fantasmé par beaucoup de lecteurs du roman. Ce qui veut dire que le film a trouvé son premier rôle masculin. Reste à trouver maintenant une héroïne féminine.
La musique d'OTAN n'emporte le vent sur Europe 1. Musique signée Max Steiner, au cœur du tournage d'un des plus grands films du XXe siècle. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur l'actrice Olivia de Havilland. Elle sera Mélanie dans OTAN en emporte le vent. A tout de suite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes de retour sur le tournage d'Autant en emporte le vent à la fin des années 40, tournage à rebondissement, et nous retrouvons avec vous Franck Ferrand, l'actrice d'Hollywood Olivia de Havilland, qui figure au casting.
À la fin de 1938, l'essentiel du casting est établi. Deux rôles principaux sont tenus par des acteurs reconnus, Clark Gable, qui d'ailleurs n'est pas tellement convaincu par son rôle, et Olivia de Havilland, qui doit interpréter la sage, la douce Mélanie. Olivia est une des stars de la Warner. Elle est déjà célèbre pour des rôles féminins très importants dans des films d'aventure avec Harold Flynn, Captain Blood, Les aventures de Robin des Bois, etc. On va parler de tout ça dans un instant avec Henri-Jean Servat, bien entendu. L'actrice a dû batailler pour obtenir le rôle. Elle a bataillé face à la Warner, qui longtemps refuse de la laisser jouer pour d'autres compagnies. Seulement, Olivia a plus d'un tour dans son sac. Elle explique son désarroi à la femme du patron de son studio, qui comprend la situation et qui, vous savez comment ça se passe, va finir par faire céder son mari. En revanche, Scarlett O'Hara manque toujours à l'appel. Selznick a, semble-t-il, tout essayé. Il a multiplié les discussions avec ses collaborateurs. Il a fait ratisser les villes du sud des États-Unis. Toutes les grandes actrices hollywoodiennes ont été auditionnées. Rien n'y fait. Aucune comédienne n'a l'air de s'imposer de façon évidente. Et quelques jours avant le tournage, il écrit à un de ses collaborateurs: je crois que vous devriez préciser à Catherine Hepburn, Jean Arthur, John Bennett et Loretta Young qu'elles sont parmi les rares candidates à rester sur la liste. Le choix définitif devrait se faire parmi elles, plus Paulette Goddard, plus notre nouvelle venue Doris Jordan, plus un nouveau visage qui pourrait se présenter à la dernière minute. Et si l'on en croit la légende, alors tout ça a peut-être été un peu enjolivé au moment de la sortie du film, mais c'est ce qui va se passer, figurez-vous. Car à partir de décembre 38, aussi incroyable que ça puisse paraître, le tournage du film commence alors qu'on n'a toujours pas l'héroïne, on n'a toujours pas de Scarlett. On filme le fameux incendie d'Atlanta quand le frère de Selznick, Myron, lui rend visite sur le plateau. Il n'est pas seul, il a avec lui une jeune actrice anglaise, son nom Vivian Lee. Elle a un teint de porcelaine, des yeux magnifique, des yeux très clairs, un air à la fois fragile et qui, en même temps, a l'air d'être solide. Quand Myron me la présenta, dit Selznick, les flammes de l'incendie éclairaient son visage et il dit « Je veux que tu fasses la connaissance de Scarlett O'Hara ». Je jetai un regard sur elle et sus qu'il avait raison quant à l'idée que je me faisais de Scarlett. Plus tard, ses essais montrèrent qu'elle pourrait interpréter le rôle à merveille, mais je ne me suis jamais remis de ce premier coup d'œil. À quoi ça tient parfois ? Le problème est donc résolu, mais bien entendu, dans un tournage aussi complexe, il est prévu de tourner environ 700 scènes. Il y a toutes sortes de difficultés qui vont apparaître. Selznick, je vous l'ai dit, veut tout contrôler. Il supporte mal que le réalisateur qu'il a choisi, George Cukor, modifie des scènes de son propre chef. De plus, il trouve que Cukor passe trop de temps à préparer les deux actrices principales. Il y a un rythme à tenir quand même. Et de son côté, disons-le, Cukor est exaspéré de recevoir les scènes à tourner le jour même. Et pour cause, Selznick, qui garde pour lui le scénario initial complet, reprend souvent les scènes au dernier moment. Bientôt, c'est la goutte de trop. Le 13 février, Cukor est remercié. Et ça, on peut dire que c'est une catastrophe. Comment trouver un remplaçant maintenant, alors qu'on est déjà en cours de tournage ? Avec l'aide de la MGM, on fait appel à Victor Fleming, un réalisateur doué qui est en train de terminer Le Magicien d'Oz. Merveille des merveilles, Fleming est un homme à poigne. Il réclame notamment un scénario précis et il ne veut pas les espèces de feuilles incompréhensibles que Selznick a l'habitude de transmettre. Le producteur va donc prendre une décision qui lui coûte. Il interrompt le tournage, il fait appel à un nouveau scénariste et il remet tout à plat. Pour que l'auteur embauché comprenne bien l'histoire, Selznick et Fleming se mettent à lui mimer les diverses péripéties. On peut même imaginer Fleming, gaillard, c'est un bonhomme qui fait 2 mètres de haut. Hein. On l'imagine en train de simuler l'accouchement de la délicate Mélanie, j'aurais bien aimé voir ça. En repartant du scénario initial, les trois hommes vont avancer très vite. Marie-Christine de Montbrial le raconte. Après 17 jours et nuits d'écriture dans une atmosphère d'excitation permanente, travaillant presque sans interruption, le scénariste épuisé estima sa tâche accomplie et s'enfuit littéralement du studio où Selznick était resté campé en permanence, tenant debout à coups de benzédrine, une des premières amphétamines. Enfin, avec un scénario clarifié, le tournage peut donc reprendre. Fleming apporte un nouveau souffle, son ami Clark Gable est ravi, Vivian Leigh, Olivia de Havilland sont un peu moins ravis parce que elle continue à demander des consignes de jeu à George Cukor, qui connaît mieux les actrices, qui sait mieux les diriger, si vous voulez. Alors que Cukor, bien sûr, n'est plus sur le tournage, vous l'aurez compris. Les semaines passent, le rythme de travail devient effrayant. Certaines journées, on passe 18 heures sur le plateau, le tout au rythme des ordres intempestifs de Selznick. L'œuvre monumentale n'en prend pas moins forme, peu à peu. Tout ça est épuisant, évidemment, et pour le réalisateur plus que pour d'autres. S'y ajoutent des désaccords avec les acteurs. Un jour, par exemple, Clark Gable refuse que son personnage verse des larmes dans une scène. Un autre jour, Vivian Leigh s'offusque qu'on fasse de son personnage une espèce de peste. Bref, la pression devient forte. Très forte, peut-être trop forte, puisque Fleming va finir par craquer.
La jeunesse du film culte autant n'emporte le vent est au cœur de l'histoire et quand vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos messages, poser vos questions par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Nous vous retrouvons dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer de parler du tournage rempli de péripéties d'autant n'emporte le vent.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Au cœur du tournage complexe et mouvementé d'autant n'emporte le vent, Franck Ferrand, nous sommes désormais juste après le départ du réalisateur Victor Fleming.
Eh bien oui, aussi impensable que ça paraisse, Victor Fleming est remplacé par un nouveau réalisateur. C'est donc le troisième sur le même film. Le temps en tout cas qu'il se remette d'aplomb. C'est un homme solide, un homme fier qui n'entend pas se faire souffler sa place de réalisateur par un autre. Dès qu'il se sent mieux, Fleming reparaît sur les plateaux. Le voilà de retour sur le tournage et le rythme n'en est pas moins éreintant. On tourne encore et encore des scènes intimistes, des scènes beaucoup plus complexes qui exigent de très nombreux figurants. À certains moments, nous dit Marie-Christine de Montbrial, 6 équipes tournaient en même temps dans la désorganisation absolue et géniale de Selznick. Le film avançait comme par magie malgré tout. Enfin, après environ une demi-année d'efforts, le 27 juin 1939, l'essentiel du tournage s'achève. Les scènes sont en boîte, ce qui ne veut pas dire que le travail soit fini, bien entendu, parce qu'il va falloir monter maintenant. Le premier montage est réalisé au début de l'été, pour un film qui dure encore 6 heures, vous imaginez, et il va falloir couper là-dedans, sans état d'âme. Il y a toutes sortes de détails qu'il faut encore fignoler. Ce n'est que début septembre qu'une version paraît susceptible d'être testée devant un public, vous savez, un public test. Le film sous le bras, Selznick et sa femme, avec un de leurs collaborateurs, se rendent à Riverside, en Californie. Et sans que les spectateurs aient été prévenus à l'avance, on leur propose de voir un film qui n'est pas celui pour lequel ils ont acheté leur place. La musique définitive n'étant pas encore achevée, on en a mis une autre, mais le test n'en est pas moins révélateur. Le générique déclenche des réactions fortes, nous dit Marie-Christine de Montbrial. Le nom de Margaret Mitchell est applaudi avec enthousiasme. Le titre du film provoque un début d'émeute. On ne s'entend plus. Le projectionniste a poussé le son au maximum. Selznick, sa femme et son associé pleurent comme des enfants. Peu à peu, le silence se fait. Il dure jusqu'à la fin du film et au-delà. Après la dernière scène, après le générique de fin, les spectateurs restent immobiles, comme pétrifiés. Un moment qui semble une éternité avant d'éclater en applaudissements frénétiques. Ce qui veut dire que tout s'annonce pour le mieux, même si la course contre la montre continue. La sortie du film doit avoir lieu en décembre et de nombreuses questions sont encore à régler. Par exemple, il faut convaincre les censeurs du Hays Office, qui refusent la dernière réplique du film, considérée inappropriée, qui devait faire dire à Clark Gable « Frankly, my dear, I don't give a damn », qu'on pourrait traduire par « Franchement, ma chère, j'en ai rien à foutre ». Un compromis est finalement trouvé. Selznick peut utiliser la fameuse réplique, mais il devra s'acquitter d'une amende. Enfin, le 15 décembre 39, c'est ça la date. Grande première à Atlanta, puisqu'après tout, une partie importante de l'action du film se situe là. C'est une immense opération publicitaire. La ville devient le centre d'attention de tout le pays. Les acteurs principaux sont là, sauf les acteurs noirs qui n'ont pas été conviés à cause de la ségrégation qui règne dans tout le sud des États-Unis. Cependant, la présentation du film, entre parenthèses, le film a été ramené à 4 heures. Cette présentation est triomphale, le public exulte, l'auteur du roman a fait le déplacement et Judy Cameron et Paul Christman précisent que Margaret Mitchell, conduite sur scène, reçoit l'ovation de 2000 admirateurs. Avec beaucoup de modestie, elle se tourne alors vers Selznick et dit « Merci d'avoir fait vivre mon livre ». Quel hommage pour le producteur qui, depuis plus de 3 ans, a sué sang et eau pour bâtir un film tel que personne n'en avait alors encore jamais vu, un film titanesque, un film épique et qui peut-être parfois peut donner un peu dans le mélo, c'est certain, il y a des excès dans Autant n'importe le vent, mais c'est peut-être ces excès-là que nous aimons plus que le reste. Quoi qu'on en pense, ce film va faire date dans un art qui, à l'époque, ne l'oublions pas quand même, on est en 1939, le cinéma n'existe même pas depuis 50 ans. Le public comprend l'importance de ce qui est en train de se passer. Le film rapporte 20 millions de dollars lors de sa première exploitation, son exploitation initiale. Il faut vous dire que le film a coûté seulement 4 200 000 dollars. Alors, évidemment, ça a été très long et très difficile. Il ne faut pas oublier le contexte de la sortie de ce film, puisqu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais la guerre, elle se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'instant, elle ne concerne pas véritablement les Américains. Lors de la cérémonie des Oscars, fin janvier 40, le film remporte une avalanche de récompenses. Oscar du meilleur film, ça évidemment, remis bien sûr à Selznick. Oscar du meilleur réalisateur pour Victor Fleming. Oscar de la meilleure actrice pour Vivien Leigh. Pour le prix du meilleur second rôle féminin, c'est Hattie McDaniel qui va remporter le prix. Elle est la première actrice noire à être ainsi distinguée. Voilà qui peut sembler une belle revanche après sa non-venue à l'avant-première d'Atlanta, je vous l'ai dit. Et Olivia de Havilland, allez-vous me dire? Eh bien, évidemment, elle aussi a été nommée dans cette catégorie de l'Oscar pour le meilleur second rôle féminin. Vous comprendrez donc que ce soir-là, elle soit repartie bredouille, qu'elle se rassure, son talent va lui donner bien d'autres occasions de tenir la précieuse statuette entre ses mains. Bonjour Henri-Jean Servat.
Bonjour mon cher Franck, j'ai le plaisir à saluer vos auditeurs aussi bien évidemment.
Mais ils sont ravis que vous soyez là dans votre belle chemise soleil à dos.
Et moi non plus.
Je le dis pour ceux qui ne nous voient pas sur internet. Et nous allons grâce à vous revivre toute cette épopée extraordinaire à travers un siècle de carrière phénoménale.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I had to lie, steal, cheat, or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again.
De Vivien Leigh sur Europe 1, extrait d'Autant n'emporte le vent, la genèse du film et la comédienne Olivia de Havilland qui, elle, joue le rôle de Mélanie sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le journaliste Henri-Jean Servat qui sortira en septembre prochain chez Flammarion son livre Le style Bardot.
Évidemment, on ne peut pas dire, Henri-Jean Servat, que le rôle réservé à Olivia de Havilland dans Autant n'emporte le vent, soit le rôle de la vedette. Hein. Elle a été, là, honnêtement, elle a été
annoncée par Vivien Leigh. C'est clairement le second rôle féminin. Mm-hmm. Et en plus, on peut le dire, c'est un rôle très très tarte, je veux dire honnêtement.
Non, mais c'est oui, elle est bien gentille, disons.
Le rôle d'une courge, honnêtement. Je veux dire, elle héberge chez elle sa meilleure copine. Sa meilleure copine ne rêve que de lui piquer son mari. D'ailleurs, et on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi, tout au long du film, Scarlett O'Hara ne rêve que de voler Ashley Wilkes que joue Leslie Howard. Alors qu'en fait, le mec là, bien viril et qui fait craquer tout le monde, c'est Rhett Butler.
C'est Rhett Butler, bien sûr, Butler. C'est Clark Gable.
On ne comprend pas pourquoi elle le veut. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que Olivia de Havilland, dès qu'elle y a eu les rumeurs sur l'adaptation cinématographique par la MGM, donc du best-seller de Margaret Mitchell, elle voulait ce rôle-là. Alors contrairement à ce que vous avez dit avec Justesse tout à l'heure, que toutes les actrices d'Hollywood, toutes, même Bette Davis, même celles qui avaient des physiques difficiles, un peu,
voulaient le rôle de
voulaient Scarlett. Le rôle et ont été testées pour le rôle. Elle, Olivia de Havilland, dès le début, elle a dit « je veux ce rôle, je veux le rôle de Mélanie ». Pourquoi ? Parce que, en fait, elle était spécialisée, Olivia, dans les rôles de femmes gentilles, de filles douces, de dames tartines un peu, je veux dire, sans. Elle savait démarrer avec les premiers films avec Errol Flynn, Robin des Bois, qui était le premier d'une série de 8. Et elle jouait l'ornement, elle jouait la garniture. Et à l'époque, elle était encore un peu timide dans l'industrie hollywoodienne. Elle pensait qu'il ne fallait pas aller contre sa nature, ni aller contre l'industrie. Elle avait compris qu'elle avait une voix royale pour ce rôle de femme gentille, douce, aimante, compréhensive. Et donc, elle s'est jetée là-dedans. Et c'est pour ça qu'elle l'a réclamé. À l'époque, elle était sous contrat à la Warner. Elle a demandé à Jack, et ça c'est elle qui me l'a dit, donc je n'invente pas. Elle a demandé à Jack Warner, libérez-moi, louez-moi. Vous savez, à l'époque, l'industrie hollywoodienne, chaque acteur était sous contrat avec un studio.
Oui, il était loué. Il y avait des exclusivités, en fait.
Voilà, il ne travaillait qu'avec le studio, à moins que le studio acceptât de le louer à une compagnie concurrente. Et donc, quand elle était sous contrat avec la Warner, elle a fait le siège de Jack Warner, qui était une vieille carne, qui était le patron des studios, afin qu'il acceptât de la louer à la MGM pour qu'elle joue le rôle de Mélanie, parce que elle voulait absolument, et elle a tout accepté. Elle m'a raconté qu'elle a accepté des rôles de bécassine, de quoi. Tout ce que Warner a voulu lui faire faire, elle l'a accepté sans sourcil et sans broncher, parce qu'elle rêvait de ce rôle-là. Donc, Olivia de Havilland ne se retrouve pas par hasard dans la peau de Mélanie. C'est le rôle qu'elle veut. Donc, c'est archétypal par rapport à sa carrière.
Est-ce qu'elle n'en a pas un peu assez, quand même, au bout de plusieurs grands films, de jouer ces rôles de fille très gentille, disons?
C'est-à-dire qu'elle avait compris qu'elle est très intelligente. Elle avait compris que si elle voulait se faire une place en or à Hollywood, il fallait, vous savez, les Hollywood, c'est comme une crèche provençale. Il y a le ravi, l'illuminé, le gentil. Chaque acteur, par exemple, est ancré dans un personnage. Lana Turner est blonde, elle doit toujours voler les maris de ses copines. Elle doit mourir à la fin.
Chacune a un peu son emploi, voilà, comme on disait dans le théâtre d'autrefois.
Et alors, l'emploi de Olivia Newton, c'était la fille gentille. C'était la fille compréhensive, douce, aimante, qui ouvrait ses bras et qui accueillait les gens. Voilà. Donc, elle a compris que c'était bien pour elle. Et puis, elle a compris que le film, ce serait mammouthéen. Et elle ne serait pas acceptée pour jouer une petite pestouille comme Scarlett.
On va revenir dans un instant sur son enfance, sa jeunesse, mais quand elle arrive à Hollywood, on est dans les années 30, c'est l'époque, c'est l'âge d'or, le fameux âge d'or
sûr,
de Hollywood.
Sûr,
le monde
sûr.
Entier a les yeux rivés sur ces quelques arpents, c'est extraordinaire. Elle va jouer en plus aux côtés de la star des stars, Errol Flynn. Ça s'est passé comment avec Errol Flynn?
C'est passé divinement parce qu'elle n'était pas, embêtante, tu veux dire, et elle était, quand on regarde la façon dont joue Olivia de Havilland, elle a un jeu extrêmement précis. Elle ne fait pas la nunuche idiote, si j'ose dire, parce que vous savez, par exemple, elle démarre avec Errol Flynn dans Robin des Bois, on ne voit jamais ses cheveux. Elle a toujours des hénins, des voiles, des chapeaux tout le temps moyenâgeux. Et elle m'a expliqué qu'elle n'avait que son visage pour réagir et pour exprimer. Donc elle s'arrangeait pour faire passer des émotions. Elle se concentrait sur son visage. Et la preuve, elle était jugée bonne, puisque. Et en plus, une bonne camarade. Je veux dire, elle n'a jamais été la compagne ou la complice, la maîtresse d'Errol Flynn. Mais elle joue avec lui. Olivia, c'est quelqu'un qui savait le film terminé, boire un verre s'il fallait boire un verre, rigoler un bon coup, être très très gentil. C'était une très bonne copine.
Il a dû lui faire la cour quand même, on peut.
Il lui a fait la cour, mais elle n'a pas cédé. Elle était une camarade de travail exigeante, et en plus elle avait une façon de jouer extrêmement précise. La preuve, elle a été bonne face à lui. Il fallait tenir face à ce type moustachu qui pétait l'écran de partout, qui sautait comme un. Il fallait incarner quelque chose. Et ça, ça lui a plu de se couler là-dedans. Et puisque elle a plu aussi au producteur, puisqu'elle a joué 8 rôles. Elle joue les utilités décoratives aux côtés d'Errol Flynn.
Alors, on parle beaucoup de l'Angleterre depuis quelques jours. Elle est britannique au départ.
Hein, ah oui, elle est née à Tokyo de parents anglais. Et elle avait avec une sœur. Elle est née britannique, Olivia, tout à fait.
Et est-ce que ce n'était pas un handicap pour une comédienne britannique?
Mais si, parce que les Britanniques, vous avez un accent.
Mais c'est ça, c'est pour
ça. Accent dans l'industrie hollywoodienne. Et on réservait aux Britanniques les rôles un peu chic, de châtelain, de châtelaine, d'antiquaire, de décoratrice. Elle pouvait pas jouer une femme du peuple, si je dois, enfin, une femme d'Amérique profonde.
Et elle a un chic naturel tout à fait extraordinaire. Sa sœur aussi, d'ailleurs, Joan Fontaine.
Ah oui, tout à fait. Mais elles ont un vrai chic beau, parce qu'en plus, je trouve que les sœurs de Havilland n'ont pas ce côté, agressif, sexuel. Pardon d'être. Ce ne sont pas des poules, je veux
dire.
Oui,
ce n'est pas des vampes.
Voilà, c'est pas. Vous qui êtes plus distingué que moi, vous dites des vampes, moi je dis des poules. Mais c'est pas, elles n'ont pas une sexualité agressive, quoi. Voilà la preuve. Elle réussit à être magnifique et à se trouver des fans dans Robin des Bois et dans les films avec Errol Flynn, alors qu'elle est couverte, on ne voit pas un centimètre de sa peau, sinon le bout de son nez et ses joues. Donc elles ont un physique très classique, très classieux, très, très,
Elles sont d'un bon milieu, on peut le dire. Elles ont reçu une bonne éducation.
Ah oui, elles ont reçu une bonne éducation. Je crois que le père était diplomate ou banquier, je ne sais pas. Oui. Il voyageait beaucoup, puisqu'elle est née à Tokyo, où son père était en poste à Tokyo. Elle a été élevée avec beaucoup de distinction, beaucoup de classe et beaucoup d'élégance. Et il lui en est resté beaucoup. Elle fait très lady. Quand on voit Olivia, elle fait très, très lady.
Elles ont d'ailleurs chacune été sélectionnées pour l'Oscar de la meilleure actrice.
En 42.
Ça, c'est un phénomène.
Les deux sœurs étaient en concurrence et les deux sœurs s'appréciaient, étaient copines. Et je crois, parce que je sais qu'elle était fâchée, Olivia était très très fâchée avec sa sœur. Et les légendes, enfin, racontent. Moi, je sais qu'honnêtement, elle n'a jamais voulu en parler avec moi, mais je pense que quand il y a eu la remise des Oscars en 42, c'est Joan Fontaine qui a eu l'Oscar. La légende raconte que Olivia s'est précipitée vers sa sœur pour l'embrasser, la câliner, lui dire bravo, bravo. Et John Fontaine, qui avait un caractère un peu plus spécial que celui d'Olivia, l'a rabrouée devant les caméras, devant les gens. Elle en a été mortifiée, elle a jamais voulu s'excuser. Ça s'est envenimé d'une chose idiote, quoi, voilà. Et les sœurs
elles
sont
se sont jamais réconciliées.
Jamais réconciliées.
John Fontaine est décédé en 2013.
Hein. Elles se sont jamais revues, jamais reparlées, jamais. Alors qu'elles ont fait une carrière au sommet toutes les deux. John Fontaine a démarré quand elle a fait Soupçon.
Avec
Hitchcock, que devait faire Michel Morgan. Mais Michel Morgan ne parlait pas assez bien anglais à l'époque. On a engagé John Fontaine et sa carrière a éclaté à ce moment-là. Et puis 42, c'est la même année, je veux dire, Olivia est nommée pour les Oscars aussi. Voilà, bien sûr.
Est-ce que les deux avaient la même formation de comédienne? Parce que pour ce qui est d'Olivia d'Havilland, elle a été formée à l'école du théâtre.
Ah oui, tout à fait, puisqu'elle a démarré un jour Le Songe d'une nuit d'été, donc au théâtre. Elle a eu cette formation bien dure, mais formée sur le tas. Vous savez, beaucoup d'actrices, des fois, elles arrivent, elles sont chichiteuses, elles arrivent en retard, il faut les coiffer, elles sont manières, il faut s'en occuper. Tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on dit sur Olivia, solide comme un roc, à l'heure comme tout le monde, jamais demander un traitement particulier, jamais jouer la mijaurée, la minaudière ou la maniérée, jamais.
Alors, elle en a assez néanmoins au bout d'un moment de jouer tous ses rôles. Hein. Et après, autant on emporte le vent, elle va carrément faire un procès à la Warner.
Ah oui, parce qu'elle était ce qui a beaucoup agacé Olivia, c'est que elle s'est rendue compte que autant elle a voulu le rôle de Marlon, on est tout à l'heure, elle a voulu le rôle de Mélanie parce qu'elle voulait ce rôle, elle pensait qu'elle était bonne pour le faire.
Oui, elle était faite pour.
Et qu'elle serait acceptée par le public. Mais au bout d'un moment, elle en a eu marre, c'est de jouer toujours les dames tartines, les nuches et les choses comme ça. Elle en a eu marre de jouer ça. Et elle s'est rebellée contre Jack Warner, qui, pardon de le répéter, était vraiment une vieille carne, grossier, mal élevé, goujat, qui traitait vraiment ses acteurs comme du bétail. Il ne voulait pas entendre parler de faire autre chose à Olivia que ce qu'elle faisait. Et il y a le fameux clause de contrat, vous savez, vous avez un contrat de 7 ans. Mais si vous refusiez de faire, par exemple, Grace Kelly, Marilyn, plein d'actrices d'Hollywood ont été suspendues parce qu'elles refusaient de tenir les rôles qu'on leur proposait. Donc quand on vous suspend, on rajoute du temps à vos 7 années. C'est-à-dire, si vous êtes suspendu pendant un mois et demi, vous resterez dans le studio 2 mois et demi de plus sous contrat. Ça permettait de garder des gens sous sa coupe.
Et à côté, peine de prison.
Ah oui, tout à fait, pendant très très longtemps. Et donc, ça a beaucoup agacé Olivia de voir qu'elle était suspendue. Comme elle refusait de jouer éternellement les dames tartines, donc elle en a eu marre et elle a fait un procès à Warner pour faire que son contrat puisse se dérouler comme il convenait de se dérouler en 7 ans, mais qu'on ne rajoutât pas les périodes où elle a été suspendue. Et à l'ahurissement général, alors que Bette Davis avait tenté de faire la même chose quelques années auparavant, elle a gagné. Alors on ne peut pas en parler pendant des heures parce que c'est extrêmement technique, mais tous les acteurs hollywoodiens ont une reconnaissance éternelle.
Mais
pour
oui, parce
de
que
Havilland.
C'était un précédent.
Et ça s'appelle l'amendement de Havilland, ce qui fait que vous avez un contrat pour un producteur, il vous engage pendant 7 ans, vous faites 7 ans. S'il n'y a pas de suspension, ce ne sera pas 7 ans et 6 mois.
J'allais parler presque de la sainte patronne des acteurs hollywoodiens.
Mais voilà, on peut
alors,
le dire.
Nous allons voir ce qu'elle a fait de cette victoire, parce qu'elle va avoir, à partir de là, une deuxième carrière cinématographique.
Ah, bien sûr.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Retrouvez-moi tout à l'heure, dès 15h, sur Europe 1.
Et nous nous poserons cette question cet après-midi. La fidélité est-elle une valeur dépassée? Et on se posera cette question en présence du psychiatre Christophe Faure, spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie, Marion Ruggieri. Et il n'y en a pas de comme elle, entre 15h et 16h, sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Thank you.
amoureux du film américain Les Aventures de Robin des Bois de 1938, film dans lequel Olivia de Havilland joue le rôle de Lady Marianne face à Errol Flynn, l'actrice britannique est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le journaliste Henri-Jean Servat. Il sortira en septembre prochain son livre Le style Bardot aux éditions Flammarion.
Henri-Jean Servat, je pense que nos auditeurs l'ont compris. Vous connaissez, vous, personnellement, Olivia de
Havilland? Ah oui, alors je connais personnellement Olivia de Havilland et depuis trois décennies. C'est-à-dire que j'ai rencontré Olivia, c'était à l'occasion d'un papier pour Libération quand ressortait La Fosse aux Serpents. Et j'ai rencontré grâce à Gisèle Galante, qui était ma camarade de travail chez Journaliste à Paris Match. Mm-hmm. Elle était journaliste à Paris Match, Gisèle, la fille donc de Olivia, qui avait épousé en seconde noce un rédacteur en chef de Paris Match qui s'appelait Pierre Galante. Alors on reviendra sur lui.
Oui, parce qu'il y a toute une histoire assez intéressante.
Avec les Monaco.
On s'apprête en ce moment à célébrer donc les 100 ans. Ça va être là le 1er juillet.
Et alors Gisèle m'a présenté sa mère, j'ai vu sa mère, j'ai revu sa mère à plusieurs reprises. Elle a bon pied, bon oeil, elle va avoir 100 ans le 1er juillet. Donc elle se porte divinement bien. Et c'est comme ça qu'effectivement que je l'ai connue. Alors elle a été mariée avec, si on peut en parler, avec Pierre Galante. Mm-hmm. Et un jour, Olivia, donc, qui habite à Paris depuis pratiquement 50 ans, dans le 16e arrondissement, une très jolie villa du 16e siècle, elle prend le train à la gare de Lyon pour partir au Festival de Cannes. Elle a avec elle son mari, fraîchement épousé, Pierre Galante, ils sont quasiment en lune de miel. Sur le quai de la gare de Lyon, Olivia de Havilland voit arriver sa copine, Grace Kelly. Elles ont toutes les deux fait des films ensemble, enfin pas jouer ensemble, pour la Metro-Goldwyn-Mayer. Elles se connaissent, elles s'embrassent. Olivia présente son mari à Grace, prend Grace à son mari, et elles prennent le train tout ensemble, le fameux train bleu.
C'est quand même extraordinaire, ces deux stars qui montent dans le train bleu,
oui,
avec l'amour au possible.
Mais dans le train, il y a Jean Piron, il y a beaucoup dans le train. Ouais. Et ils dînent au wagon-restaurant le soir, et Pierre Galante, avec sa femme et Grace en face de lui, a l'idée, mais on est dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde, propose à Grace, qu'est-ce que vous allez faire à Cannes? Je ne sais pas, je vais voir quelques films. Est-ce que je peux vous proposer de faire un reportage pour Paris Match? Grace accepte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Paris Match? Et Pierre Galante a deux idées. De mettre une photo avec Grace, qui est la quintessence du chic, la sophistication, l'élégance, et la mettre à côté de Brigitte Bardot, qui est aussi chic et que j'adore, mais qui est plus sauvageonne, qui est plus cheveux
dans
en liberté.
Autre registre,
comme ça.
Voilà.
C'est les deux révélations, les mettre en photo tous les deux ensemble, ou alors, lui dit-il, on peut vous photographier avec le prince de Monaco, si j'en peux voir si ça vous intéresse, s'il accepte. On fait l'histoire courte, ça s'est pas fait avec Brigitte parce que c'est pour l'histoire de calendrier. Il a appelé le palais le lendemain, le train arrivé, mais Grace avait accepté le principe de partir pour Paris Match sur le rocher de Monaco
pour faire cette photo
avec le prince souverain. Et ben, l'histoire, vous la connaissez.
Bah, évidemment.
Alors, ils sont partis là-bas et voilà. Et le soir, ça qui est assez amusant, c'est le soir où Grace est revenue donc de la rencontre qui a duré 40 minutes pas plus avec Rainier de Monaco sur son rocher. Il y avait une cérémonie au Carlton qui était la réception par les acteurs américains de la presse étrangère française internationale présente à Cannes. Et à l'entrée, moi j'ai les photos de ça, j'ai même un morceau de film de ça, à l'entrée du grand salon d'honneur du Carlton, les deux actrices qui recevaient toute la presse étrangère qui venait voir les stars hollywoodiennes, c'était Grace Kelly et Olivia de Havilland. Et Olivia m'avait raconté que Grace lui avait raconté qu'elle avait été très impressionnée par la rencontre. Ça, c'est dans la bouche d'Olivia. Très impressionnée par sa rencontre avec le prince de Monaco. Et elle, elle se comportait déjà comme une princesse. C'est facile à lire maintenant.
Faut dire qu'elle en
dans
avait
la
tout
bouche
le port
d'Olivia.
Et toute l'allure.
Ah oui, elle avait l'allure à l'époque. Ouais.
Alors là, on vient de célébrer les 60 ans du mariage du prince Rainier III de Monaco avec l'actrice Grace Kelly, donc la future princesse Grace. Et à cette occasion, un document, un coffret a été réalisé.
Oui, à la demande du palais.
Prince Albert. Oui.
Moi, j'ai fait un coffret sur on a trié des photos magnifiques et de sortes des archives de Monaco. Et puis donc, j'ai légendé toutes les photos, j'ai écrit un texte, un petit livre avec. Et on cherchait quelqu'un qui pût rédiger la préface. Et est apparu comme une évidence que Olivia de Havilland,
puisqu'elle avait fait ce mariage,
puisqu'elle avait fait la rencontre favorisée, présentée galante à Grace, qui n'était pas princesse de Monaco à l'époque. Et ce que je peux dire sur l'antenne d'Europe 1 face au cher Franck Ferrand aujourd'hui, c'est que Olivia de Havilland a fait la préface de sa main. Elle a fait la préface il y a deux mois au coin de sa main, à 99 ans et je sais pas, 9 mois, elle a écrit une préface qu'elle racontait, hommage à Grasse et hommage à, voilà, c'était donc, tout ça pour dire qu'elle a particulièrement bon pied, bon œil. Elle lit, elle habite, elle a quitté sa maison et elle vit à l'hôtel dans une suite d'hôtels de luxe à Paris où elle a des secrétaires. Elle reçoit un courrier hallucinant parce que c'est quand même la dernière des dernières légendes hollywoodiennes encore en vie. Il y a Kirk Douglas qui vit et il y a Olivia de Havilland, c'est tout. Elle reçoit des demandes de photos, des lettres, des demandes d'interviews,
ce qu'il faut dire, et là nous enchaînons avec ce que nous disions tout à l'heure dans la première partie de notre entretien, Henri-Jean Serva, c'est que après cette première carrière un peu iconique, disons, à Hollywood, Olivia de Havilland va connaître une deuxième carrière, j'allais dire la vraie, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être plus intéressante, en tout cas, du point de vue cinématographique.
Parce que ce qu'elle a fait de façon intelligente, elle a compris qu'elle avait un physique et qu'elle avait une apparence lisse, disons, réservée. Olivia, c'est pas le genre d'actrice, on lui met la main aux fesses, on est désinvolte avec elle, c'est une actrice, c'est une lady, si j'ose dire, dans la vie. Et elle l'a joué de ça, c'est-à-dire que ce qui lui plaisait beaucoup, c'était sous ce physique, sous ce dehors de un peu de dame d'œuvre, un peu de dame gentille et aimable, elle a aimé incarner des filles qui avaient des tourments dans la tête, qui avaient des petits vélos dans la tête et qui étaient un peu zinzin, un peu allumées, un peu nympho, un peu méchante, un peu aigrie, un peu. Et ça, elle a fait sa carrière d'actrice de façon extraordinaire. Elle a joué dans L'Héritière où elle joue une vieille fille pleine d'aigreur, pleine de rancune. La fosse au serpent de Litvak, elle mord les doigts de son médecin, elle est dans un asile psychiatrique, elle est complètement piquée et tout. Mais tout en ayant cette espèce d'allure formidable, avec cette cervelle qui est agitée de passions multiples et de désordres répétés, elle est absolument extraordinaire. Et ça, comme vous le dites, en jouant cette fois le calme à premier degré, mais la tempête sous le calme, elle a gagné deux Oscars à Hollywood. Preuve qu'elle a impressionné la profession.
On dit que les réalisateurs adoraient travailler avec elle. Ah oui. C'était un véritable échange, en fait, hein, c'est ça?
Ah oui, c'est quelqu'un qui était à l'heure régulière, enfin, c'est pas le seul critère, mais qui écoutait ce qu'on lui disait, qui faisait ce qu'on disait. Mais vous savez, il suffit quand on voit, par exemple, regardez les films qui sont plus intéressants, disons, pour lesquels elle a eu les Oscars toute cette époque-là, disons, après, autant on emporte le vent, regardez son visage, c'est un paysage, son visage, elle fait frémir une narine, un lobe d'oreille, elle joue avec chaque centimètre carré de sa peau, et ce visage qui est lisse, gentil, et qui abrite dans Hush Hush, enfin Chuchu de Chère Charlotte face à Bette Davis, c'est une mégère terrible, épouvantable, et le physique n'est pas du tout comme ça, donc ça a beaucoup plu, ça plaisait beaucoup aux gens.
Le film culte, si je puis dire, c'est L'Héritière.
Ah ben, L'Héritière.
C'est William Wyler.
Ouais, William Wyler avec Montgomery Clift, voilà.
Extraordinaire.
Elle a des petites robes.
1949.
Des petits cols, des petits napperons. Elle est dans une maison victorienne avec des robes. Mais c'est tout ce qu'on aime. C'est le cinéma hollywoodien qu'on adore. Les mélodrames hollywoodiens, romantiques à mourir, romanesques à l'extrême. Ça, c'est magnifique. Il faut ressortir. Tous ces films sortent, ressortent. Il faut les trouver, les revoir en DVD. On s'en lasse pas. C'est magnifique.
Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette capacité qu'elle a de jouer sur son âge. Parce que, évidemment, elle commence à devenir, elle n'est plus tout à fait la jeunesse qu'avait adoré Hollywood. Hein,
donc. Mais elle a jamais joué. La force, vous savez, de Olivia de Havilland, qui est une femme très intelligente, je le répète, c'est d'avoir jamais joué les vampes, d'avoir jamais voulu jouer sur son physique. Elle a jamais voulu vamper ses partenaires.
Oui, oui.
Je me comprends, vamper les personnages qu'elle jouait. Donc tous ces, elle choisissait
beaucoup
avec
d'élégance.
Beaucoup de discernement.
Finalement, c'est le mot qui s'impose, hein, c'est l'élégance.
Chic, la classe.
Et la camaraderie, vous nous disiez tout à l'heure qu'elle s'entendait très bien avec Grace Kelly. Même chose avec Bette Davis.
Ah oui,
hein.
Mais Bette Davis, moi, je sais que Bette Davis, quand elle venait à Paris, parce que malheureusement elle est décédée, elle venait chez Olivia. Je veux dire, elles habitaient chez Olivia ensemble. Elles étaient allées au César ensemble. Elles habitaient tout à fait ensemble. Elle recevait James Stewart, qui était un copain à elle, beaucoup d'acteurs hollywoodiens de passage à Paris, venaient saluer Olivia, qui après a mis un terme à sa carrière, mais est restée une légende, je veux dire, absolue.
Ah oui, toujours cette classe. Elle suit l'actualité culturelle parisienne.
Oui, par exemple, elle qui a eu deux Oscars. Alors, elle a chez elle, dans sa maison du 16e arrondissement, donc je dis qu'elle a provisoirement quitté pour être un peu à l'hôtel parce qu'elle a un service 24h/24 et c'est plus facile. Moi, je me souviens quand j'étais allé là, la première fois que je l'ai vue, j'étais chez elle dans son salon et je regardais dehors. Elle a un petit escalier, c'est une maison très victorienne, ravissante, exquise, avec un goût vraiment formidable. Elle avait descendu les escaliers derrière moi et je m'étais pas retourné exprès. Et je voulais entendre la voix. Vous savez, entendez la voix qui vous parle comme ça. Et elle m'avait fait monter après l'étage. Elle avait une pièce qu'elle appelait le salon aux Oscars. Parce qu'elle a reçu.
Ah oui, parce qu'il y en a eu plusieurs, donc. Ah,
peut-être petit journaliste français, vous arrivez, j'ai une star hollywoodienne, vous voyez le salon aux Oscars avec deux Oscars dorés hollywoodiens, plus d'autres récompenses qu'il y en a eu comme ça, quoi. C'était à tomber par terre, à tomber à la renverse.
Et inoubliable, forcément. Merci beaucoup, Henri-Jean Servat. Vous reviendrez, si vous voulez, à l'automne, là, pour nous parler du 60e anniversaire du grand film de Brigitte Bardot et Dieu créa la femme. Voilà, et, bon, rendez-vous.
Ah, bien sûr, c'est ton bon anniversaire, Olivia. Il va sans le dire.
Bon anniversaire à Madame de Havilland. J'espère qu'elle nous écoute.
Merci Lady beaucoup. De Havilland, Lady de Havilland.
La suite de Cœur de l'Histoire dans un instant et vous répondrez Franck Ferrand à la question de Louise sur les origines du tabouret de grâce. Bon après-midi sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est une question de Louise aujourd'hui, posée via la page Facebook de l'émission. Louise qui vous demande, Franck Ferrand, d'expliquer ce qu'est le tabouret de grâce.
Ah, vous savez, autrefois sous l'Ancien Régime, à la cour, avoir le tabouret, ça permettait à un certain nombre de dames titrées de s'asseoir en présence du roi ou de la reine, ce qui était tout à fait un très grand privilège, bien entendu. Alors ce qu'on appelait le tabouret, souvent, c'était un ployant, en fait, vous savez, un X, si vous voulez. La prérogative était réservée aux princesses du sang, à certaines duchesses, qui donc étaient spécialement titrée, et aux princesses étrangères. Ça naît sous le règne de Louis XIII, cette affaire, et ça prend une importance folle sous celui de Louis XIV. Ça va donner lieu à toutes sortes de jalousies, vous imaginez bien. Les autres dames sont obligées de rester debout, donc ça pose des problèmes, surtout quand c'est votre cousine ou quand c'est votre belle-fille qui a le droit de s'asseoir sur le tabouret et que vous êtes vous derrière debout, c'est pas très agréable. Un pamphlet va circuler pendant la Fronde, il y en a eu tellement. Un pamphlet au nom évocateur, et les sur la jalousie des culs de la cour, c'est publié en 1649. Il faut vous dire qu'il suffit que la reine se hasarde à inviter une autre dame à s'asseoir en sa présence pour déclencher un véritable tollé à la cour. Je parlerai presque de révolte. Des lettres des duchesses et de leurs maris se mettent à circuler, des rencontres secrètes sont organisées, toute une panoplie de l'intrigue se met en place et dans la plupart des cas, les plaignants obtiennent gain de cause et le roi est très attentif à ces questions. Dans ses mémoires, Saint-Simon passe des pages et des pages, d'ailleurs au bout d'un moment ça devient hallucinant, à parler de ces histoires, de ces intrigues de tabouret. Inutile de vous dire que tout ça s'allège considérablement sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, disparaît évidemment à la Révolution française, de même que les honneurs du Louvre, par exemple, qui vous donnaient le droit d'entrer à cheval, en voiture même, dans les demeures royales. C'est à l'époque de la Restauration qu'on se met à reparler du tabouret. Entre nous soit dit, l'étiquette sous Louis XVIII et Charles X ne leur réserve pas une place essentielle. Et alors, disons-le, ça devient carrément une farce sous le Second Empire, sous Napoléon III. Pour preuve, cette dame de compagnie de l'impératrice Eugénie, la marquise de la Tour Maubourg, qui nous décrit le soir, je la cite, « tous les tabourets en X de la pièce rangés en travers et le prince impérial et ses amis sautant par-dessus à pieds joints pendant que leur majesté finisse de dîner. » Oui, le tabouret avait vécu, que voulez-vous. Et voici Marion Ruggieri.